Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Campus Anatomie, votre rendez-vous santé mensuel sur Radio Campus Amiens, des infos, des conseils pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Alors aujourd'hui, on sort de nos studios pour un reportage, on zoome sur une action de prévention à destination des étudiants à Amiens. Mercredi 13 février, plusieurs jeunes ont eu l'occasion de s'informer et d'échanger sur le thème de l'addiction lors d'un apéro-débat organisé au restaurant universitaire Saint-Leu. Addiction à l'alcool, à la drogue, phénomènes comme le binge drinking, voilà un peu les sujets au centre des discussions. Alors sur place, on retrouve notamment le service de santé universitaire et des étudiants relais santé pour animer les débats. Alors cette action s'inscrit dans le cadre de la semaine de la prévention et de la sensibilisation étudiante, organisée par Campus en Mouvement, en partenariat notamment avec la FAEP, Fédération des associations étudiantes Picard. On écoute tout de suite Nicolas Page, chef de projet Campus en Mouvement.
Ce soir, on a décidé de mettre un coup de projecteur avec différents partenaires sur les addictions liées à l'alcool et liées aux drogues. Donc le format n'est pas anodin, apéro débat, apéro sans alcool bien sûr. Donc on a l'association La FAEP qui prépare des cocktails sans alcool qu'on offre aux étudiants. L'idée étant d'initier le dialogue avec eux, ne pas être dans un contexte formel puisqu'on se trouve au restaurant universitaire Saint-Leu. Donc les étudiants sont là pour manger. L'idée c'est voilà, de ne pas non plus trop les prendre par surprise je dirais. On fait intervenir un étudiant qui prépare une thèse sur le binge drinking. Donc déjà, informer les étudiants sur qu'est-ce que le binge drinking. Peut-être qu'ils l'ont malheureusement déjà expérimenté, mais qu'ils ne l'ont pas verbalisé. L'idée aussi, c'est de les alerter sur les risques. C'est une pratique qui n'est absolument pas anodine, qui est très dangereuse. Lui, il fait un travail scientifique là-dessus, sur les dangers qui peuvent être causés au cerveau. Donc c'est intéressant aussi de mettre ça en évidence. Les étudiants n'en ont pas forcément conscience. On a le service de santé universitaire qui intervient aussi de table en table, qui fait des préventions, voilà, des tilotests, etc. On a les étudiants relais santé qui nous ont joué une merveilleuse scène tout à l'heure, une étudiante qui est actrice, qui a mimé pendant quasiment trois quarts d'heure le fait d'être saoul, complètement alcoolisé dans le restaurant. Comment réagissent les autres étudiants? La question c'était ça, toujours dans le but d'initier le dialogue et d'aller à la rencontre des étudiants.
Donc on voit que les étudiants, alors ils posent pas forcément des questions d'eux-mêmes, ils vont pas prendre le micro pour faire part de leurs interrogations. Donc il faut aller les chercher un peu, il faut circuler entre les tables.
C'est ça, on a quelques annonces au micro un peu plus formelles, histoire de poser et de présenter les acteurs. Et après, ces différents acteurs vont se présenter, se balader de table en table. On a l'association Le Mail qui est également présente ce soir et qui a mis un photolangage, pareil, à base de photographies pour initier le langage, qui ont de la documentation, qui a averti ces étudiants qui sont aussi présents sur le lieu de vie, le jeudi soir, sur Saint-Leu, où ils sont présents.
Ouais, donc on voit, hein, c'est pas forcément évident de libérer la parole, donc il faut faire ça dans un cadre voilà, un peu festif, ludique et pas les culpabiliser, hein, toujours important.
Oui, exactement. Nous, on est toujours sur l'animation, sur le fait de dédramatiser. On essaie de parler de choses qui sont sérieuses, mais sur un ton un peu plus léger.
Alors, on l'évoquait dans l'interview, des étudiants relais santé circulent entre les tables pendant l'événement pour discuter d'addiction et certains jouent même des petites scénettes. On écoute Océane.
Bonjour Océane, tu es actrice et étudiante relais santé. Parle-nous un peu de ton parcours en plus en détail.
Moi, l'année dernière, j'ai fait une L1 sciences de l'éducation. Cette année, je fais une L1 sciences sociales et j'ai décidé de postuler en tant que RS, donc c'est étudiante relais santé au SSU. Donc c'est le service de santé universitaire et on mène des actions pour, de prévention, donc notamment sur le thème du harcèlement, de l'alcool, enfin des addictions, du bien-être et de la vie sexuelle et affective. Et donc ce soir c'est sur le thème des addictions et donc on a décidé de mettre une mini pièce de théâtre en œuvre. Donc je devais jouer le rôle d'une personne alcoolique qui déambulait dans le rue pour montrer aux étudiants l'état dans lequel on peut être, même si on s'en rend compte. Donc comment nous pouvons être en étant dans ce cas-là, et comment les autres sont, et leur faire comprendre qu'il ne faut pas rester inactif et aller les aider.
Et comment ça s'est déroulé, ces pièces de théâtre, au final? Qu'est-ce que tu as fait comme geste? Qu'est-ce que tu as eu comme retour de la part des étudiants?
J'ai essayé de les interpeller un maximum, de faire des choses tout en restant en distance, les poser des choses sur leur plateau, prendre des choses, toucher des objets que je ne devrais pas toucher en temps normal, ou les fixer. Et bah, j'ai pu remarquer que la plupart, aucun ne se soucie de si je vais bien ou si je vais pas bien, si j'ai un problème. Et il y en a un, apparemment, il y a eu un retour d'une de mes collègues qui disait qu'après, dès qu'il avait fini son assiette, il voulait aller m'aider. Et elle a dû lui dire du coup que c'était de la comédie, que c'était pour de faux.
Donc il y a quand même eu quelqu'un qui a voulu t'aider, mais une seule personne parmi peut-être autour de 50, 75 personnes.
C'est ça. Après, peut-être que d'autres ont voulu réagir, mais qui n'ont pas osé et voulaient pas, avaient peut-être peur, je sais pas.
Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu trouves que dans la vie de tous les jours, en tant qu'étudiante, tu trouves que t'as pas assez de soutien, pas assez d'inquiétude de la part de tes collègues concernant ton bien-être ? Ou est-ce que t'as déjà été témoin de ce genre de situation ?
Dans le cas des addictions ?
Oui, tout à fait.
Moi, pour ma part, je pense pas avoir d'addiction. Dans mon entourage, après, quand je vois quelqu'un a une addiction à une certaine drogue ou quoi, j'essaye de l'aider, lui faire comprendre que c'est pas la bonne solution, qu'il y a d'autres moyens pour régler ses problèmes. Et puis, j'essaie de l'orienter vers des services qu'il faut. Mais généralement, quand on est dans ce cas-là, on veut pas se soigner, entre guillemets, on veut pas demander de l'aide.
Mais c'est une bonne leçon qu'il faut... Même si la personne en face ne veut pas d'aide, il faut faire des efforts, sortir de sa petite bulle, essayer de tendre la main.
C'est ça, exactement. Même si c'est une petite chose, il faut essayer d'aller vers l'autre. Et même si sur le coup, il ne veut pas y aller, il ne veut pas demander de l'aide, peut-être qu'il y aura un élément déclencheur dans sa vie qui fera qu'il veut y aller. Il repensera à ce qu'on lui a dit et décidera d'aller chercher de l'aide.
Super. Et pour le reste de l'année, qu'est-ce que vous avez d'autre prévu comme action ?
On va intervenir sur différents pôles des campus. Notamment, moi, généralement, je suis sur le thème du harcèlement. Donc, sur les différents thèmes, on va se déployer sur des actions, notamment le 12 mars. Il y aura toutes les actions de rassemblée au pôle de la Citadelle. Et après, on va prévoir plusieurs dates différentes pour différents groupes interviendra pour différentes actions.
Moi, merci beaucoup, Océane. Je te souhaite beaucoup de courage pour tes études.
Merci.
Alors, sur la problématique des addictions, parmi les personnes à solliciter pour des conseils, des informations, de l'accompagnement, il y a bien sûr le service de santé universitaire à Amiens, mais aussi le MAI, donc association spécialisée dans la prévention, le soin et la réduction des risques en addictologie. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site assos-lemaille.net. Alors, dans quelques instants, on interroge Kevin, doctorant, qui étudie les effets du binge drinking pour en savoir plus sur ce phénomène. Mais d'abord, une petite pause musicale avec le dernier single de Bonobo, Ibrick. On est de retour dans Campus Anatomy pour parler d'addiction et de consommation abusive. Rencontre avec Kevin Rabian qui étudie le phénomène du binge drinking et notamment ses effets.
Je suis en troisième thèse au sein du GRAP, le groupe de recherche sur l'alcool et pharmacodépendance, un laboratoire qui est basé au sein du CURS, donc le bâtiment de recherche de l'hôpital Sud. Et moi, j'étudie l'effet du binge drinking, donc alcoolisation ponctuelle importante, donc le fait de boire beaucoup d'alcool dans une courte période de temps dans le but d'atteindre l'état d'ivresse, et les répercussions de ce type de consommation sur le cerveau, et particulièrement sur la mémoire, donc sur l'hippocampe, la structure clé en fait dans la mise en mémoire. Et je fais ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Donc moi, je fais cette recherche sur le modèle animal du rat, et particulièrement sur la femelle.
Alors du coup, bon, c'est un phénomène, le binge drinking, dont on parle surtout, enfin beaucoup, hein, depuis quelques années. Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce phénomène, en fait ? Pourquoi tu as souhaité l'étudier en particulier ?
Alors, pourquoi le binge drinking ? En fait, je suis tombé un petit peu dans la recherche à l'alcool pendant ma licence. Je me suis rapproché du professeur Olivier Pierre Fiche et il m'a parlé de cette thématique. Ça m'a parlé parce que moi, je ne pratique pas la consommation d'alcool. J'ai jamais aimé ça, mais j'ai pas réussi à garder contact avec certains amis qui sont tombés avec l'arrivée à l'université dans ce jeu en fait d'escalade de la consommation. Il faut sortir pour boire, pour se faire connaître, pour trouver des amis. J'ai jamais adhéré à ce phénomène et j'ai voulu en fait comprendre vraiment l'enjeu qui est derrière et les répercussions que ça pouvait avoir, que ce type de consommation pouvait avoir sur le cerveau. Et aussi, j'ai toujours été fasciné par la mémoire en fait. Donc là, ça permettait de faire une pierre deux coups en fait.
Donc tu étudies essentiellement les effets, hein, ce que tu nous disais, mais est-ce que tu t'es intéressé aux causes, ce qui motive effectivement les étudiants, les jeunes à consommer abusivement? Est-ce que c'est la pression sociale? Je sais pas si tu as pu t'intéresser à ce genre de choses.
Bah, on va dire que par le biais de mes recherches et de la littérature scientifique que je me dois d'avoir, oui, je me suis intéressé à ce phénomène, même si c'est vraiment pas mon sujet de recherche à proprement parler. Alors maintenant, pourquoi les jeunes s'intéressent au binge drinking? Il faut savoir que c'est une consommation, en fait, un type de consommation qui est pas si vieux que ça. Ça vient principalement des pays anglo-saxons à la base. Et simplement, en fait, en France, on a une trop bonne image de l'alcool. La France est le pays du vin. Et même si le binge drinking se fait pas avec du vin, il y a vraiment cette image festive qui est liée à l'alcool, beaucoup plus que sur les autres drogues. Et comme l'alcool, c'est quelque chose de licite, c'est quelque chose qu'on retrouve très facilement. Par exemple, sur Amiens, je crois que c'est l'une des villes de France où l'alcool est le moins cher et donc le plus accessible. Et c'est vrai que dès qu'on arrive à l'université, il y a cette idée, donc moi j'ai commencé par faire médecine, il y a cette idée des zinzins, des soirées médecine, des soirées étudiantes le jeudi. Si on ne fait pas la zinzin médecine, c'est pas grave, il y a la zinzin infirmière derrière, et il faut y aller parce que c'est en boîte qu'on rencontre des gens, c'est en boîte qu'on va se faire des nouvelles relations. Et c'est vraiment... je ne sais pas si on peut parler de pression sociale et je ne serais pas le plus à même de pouvoir parler de pression sociale, mais je pense que oui, on est dans une société qui va pousser à la consommation d'alcool parce que en fait on trouve ça normal et on passe pour une ovni quand on dit moi je bois pas d'alcool. Et plusieurs fois en soirée, on dit me propose de l'alcool, je dis non, je préfère un coca, et ça choque les gens en fait.
On t'a vu circuler un peu entre les tables, aller discuter avec certains étudiants ici au restaurant universitaire. Quelles ont été leurs remarques, leurs interrogations?
Alors déjà, j'ai eu, et comme d'habitude, beaucoup de questions sur ce que je fais en fait. C'est vrai que la recherche en France, c'est quelque chose qui est, j'avais pas de tabou, mais c'est passé sous silence. On se demande ce qu'on fait en recherche, donc j'ai souvent beaucoup de questions sur ce qu'on fait. Et moi, ce que je voulais faire ce soir, c'était vraiment aborder le point sur qu'est-ce qu'une addiction. Et bien souvent, en fait, les étudiants ne savent pas ce qu'est une addiction. C'est-à-dire, on va dire, c'est quand on peut pas s'empêcher de consommer. C'est bien, mais ça va plus loin. Les étudiants ont tendance à voir ça comme c'est quelque chose, on est dépendant à une substance, on est dépendant à un comportement, on est addict. Mais ça va plus loin, ils n'ont pas conscience en fait de la sensibilité qu'on a tous en fait vis-à-vis de telle ou telle substance. Donc on n'est pas tous égaux face à l'addiction, il y a un terrain génétique qui est important, il y a également tout ce qui est contexte environnemental, on peut revenir sur la pression sociale, également simplement si on a l'habitude de voir par exemple nos parents qui consomment de l'alcool régulièrement, on va avoir une vision différente de l'alcool, ça marche pareil avec la cigarette, et je suis persuadé que c'est pareil également pour la cocaïne et des choses comme ça. Si on a l'habitude de voir des amis qui consomment de la cocaïne, on va avoir tenté de faire notre première expérience et en fonction du ressenti de cette expérience, on va être amené à consommer toujours plus. Et ça va aller en escaladant en fait. Donc c'est ça que j'essaye de faire comprendre en fait ce soir, c'est déjà qu'ils comprennent ce qu'est une addiction, c'est quelque chose d'extrêmement sournois, parce que je suis persuadé que dans cette salle, il y en a plus d'un qui est addict à une substance et qui ne s'en rend même pas compte. C'est bête, mais le nombre d'étudiants qui, lorsqu'ils vont sortir de ce bâtiment, vont, sans s'en rendre compte, mettre la main à leur poche, sortir une cigarette et l'allumer, avant même de s'en rendre compte. C'est ça en fait le premier pas vers l'addiction, c'est cette perte de contrôle. C'est un besoin impérieux de consommer une substance. Ce n'est même plus pour se sentir bien, c'est pour éviter de se sentir mal.
Est-ce qu'au final, le binge drinking peut être considéré comme une addiction, sachant que c'est très ponctuel comme événement ? Je pense que les étudiants ne se sentent pas addicts en fait, à l'alcool en faisant du binge drinking.
Alors, c'est une excellente question. Alors, en fait, non, le binge drinking n'est pas en fait, une addiction en soi. En fait, le binge drinking va être un marqueur de vulnérabilité en fait, au développement d'une addiction chez les jeunes. C'est-à-dire que principalement, le binge drinking est associé à quelque chose de festif. En fait, il y a deux types de binge drinkers. Dans notre laboratoire, on a fait une étude qui a révélé deux types de binge drinkers. Ceux qui vont boire pour l'aspect festif. Voilà, c'est la fête, c'est les amis, c'est les copains. On va boire et puis on va boire trop et voilà. Et d'autres qui vont boire en fait pour compenser un malaise. En fait, voilà, on se sent pas bien, on va boire de l'alcool. Même si maintenant on sait que ça sert à rien vu que ça va amplifier notre malaise. Donc non, le comportement de binge drinking en lui-même ne peut pas être associé à une addiction. Par contre, ce qui est très important, et en fait c'est limite de la prévention, c'est faire comprendre aux jeunes que le fait de boire beaucoup, en fait, ça va développer dans notre cerveau tout un tas de mécanismes. En fait, le cerveau est quelque chose d'extrêmement plastique, en fait. Toutes les expériences qu'il va recevoir, il va s'en imbiber, il va se transformer, il va vivre avec. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas impossible que les binges répétés que les jeunes vont faire pendant toute leur vie étudiante va développer en fait des marqueurs de vulnérabilité qui au final vont à l'âge adulte les faire passer de simples consommateurs réguliers d'alcool à un profil type alcoolo-dépendant. Et c'est ça en fait qui est vraiment dangereux, c'est qu'à l'heure actuelle on ne connaît pas pour sûr les répercussions que va avoir cette consommation de type binge drinking, parce que c'est vraiment d'énormes. En fait, on parle vraiment de consommation d'alcool très importante sur une courte période de temps, contrairement à ce que pouvaient pratiquer nos grands-parents qui ont l'habitude par exemple de boire du vin en mangeant. C'est pas la même chose. Là, c'est vraiment la recherche de l'état d'ébriété. C'est limite on va pas manger pour être sous plus vite, et cet impact vraiment fort de l'alcool sur le cerveau, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Et le risque, c'est, il est fort à parier que c'est en multipliant ce type de comportement qu'on va plus tard, 10, 15, 20 ans, développer une alcoolodépendance qui aura les répercussions qu'on connaît derrière, tant financières que sur la santé, avec lésions au foie, etc.
En parlant de santé, quelles sont les conséquences sur le court terme du binge drinking ?
Alors, à court terme, c'est le coma éthylique, en vrai. C'est, on va boire tellement d'alcool qu'on va se retrouver aux urgences. Il y a une étude en 2014, une étude espagnole, qui a montré que les jeunes espagnols pratiquaient le binge le jeudi, le vendredi et le samedi, en moyenne deux binges par semaine, et qu'ils se retrouvaient aux urgences avec des fois jusqu'à 3 grammes dans le sang. Donc ça, c'est vraiment le cas, on va dire, extrême du binge drinking. C'est, on va tellement boire que ça y est, on a gagné, on peut plus boire, maintenant on est allongé, on est à l'hôpital. Après, ça va être surtout des accidents, c'est-à-dire on va tellement boire qu'on va tituber, on va se cogner la tête, boum, coma. C'est con, puis on se retrouve du coup à l'hôpital sans vraiment savoir ce qui s'est passé. Également, les violences qui peut être fait lié au binge drinking. On a l'alcool mauvais, on va se battre. Violence sexuelle également, principalement envers les femmes. Alcool au volant, parce que c'est ça aussi. Et c'est ça en fait le problème du binge drinking, c'est que quand on va pratiquer un binge, c'est pas tant l'alcool en lui-même qui va avoir des répercussions sur notre corps, qui va être dangereux, c'est les répercussions que ça va avoir sur notre capacité motrice, sur nos gestes, sur notre parole, qui va provoquer cet incident immédiat. Et sinon, moi, ce qu'on met en évidence au laboratoire, donc, c'est apprendre avec des pincettes, parce qu'on travaille vraiment sur un modèle animal, donc on ne va pas extrapoler encore à l'homme. Mais on a déjà publié que, après, donc, chez des animaux qui sont naïfs, donc sans aucune dose d'alcool, deux injections d'alcool qui correspondent à deux binges va permettre, 48 heures après, chez le rat mâle, d'avoir une abolition en fait, de ce qu'on appelle la dépression à long terme. C'est un type de plasticité synaptique en fait, qui est le reflet de notre mémoire. En fait, c'est le substrat neurobiologique de notre mise en mémoire. Et que cette atteinte de cette dépression à long terme, donc de ce mécanisme de plasticité, est altérée pendant 8 jours. C'est-à-dire qu'un animal qui est naïf, qui n'a jamais été en contact avec l'alcool, on lui met deux injections d'alcool, et jusqu'à 8 jours après, il perd une capacité fondamentale de notre corps, la plasticité synaptique, qui va permettre d'avoir une bonne mémorisation. C'est-à-dire que si on extrapole, donc c'est encore à prendre avec des pincettes, mais si par exemple on va prendre un étudiant qui va se binger le jeudi soir et qui se dit c'est pas grave, j'ai un examen le lundi. Tout ce qu'il va apprendre pendant le week-end, alors qu'il est plus bourré, son taux d'alcool est revenu à zéro dans le sang, mais il va pas être capable d'apprendre correctement à cause de ce binge-là. Et ce, même si certains individus étaient naïfs à l'alcool, ils n'avaient jamais consommé d'alcool. Et le problème avec les jeunes, c'est que c'est régulier. C'est chaque semaine, il y a une zinzin. Chaque semaine, il y a une sortie. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont replonger dans une consommation de type binge drinking, ils n'ont toujours pas récupéré cette plasticité normale dans le cerveau. Et encore, et encore, et encore. Et le risque, c'est que ce type de consommation peut très bien, à la longue, en fait, provoquer des répercussions et des changements dans le fonctionnement du cerveau sur le long terme qui peuvent être extrêmement graves et aller, par exemple, à l'âge adulte, au développement d'une alcoolodépendance.
Donc tu travailles sur la mémoire et je me demandais si tu peux nous parler un peu des trous de mémoire qui ont lieu pendant l'utilisation d'alcool de façon excessive.
Donc ces trous de mémoire, ce qu'on appelle le blackout en fait, c'est lorsqu'on boit tellement que on sait plus ce qui se passe. Donc le binge drinking est associé au blackout. Donc c'est vraiment encore quelque chose de particulier. Je peux pas en parler en détail parce que c'est pas moi, on va dire que c'est une brique que j'étudie une brique sur cette maison qu'est la mémoire. Mais globalement, en fait, c'est lorsqu'on va boire tellement que ça va passer une perexcitabilité en fait de notre cerveau et à un moment ça va saturer, tout simplement. Et pourquoi ça se fait? Pourquoi certains vont avoir ce blackout? Pourquoi d'autres peuvent boire beaucoup et n'avoir aucune répercussion? Ça, je peux pas vous le dire. Je connais pas ce mécanisme assez pour pouvoir en conclure quelque chose.
Ah donc j'imagine qu'il y a plusieurs recherches qui sont menées donc sur le phénomène du binge drinking dans le monde. Une partie de ton boulot, c'est aussi de faire un suivi comme ça, de se tenir au courant aussi des autres recherches sur le sujet.
Donc en effet, en fait, c'est quelque chose qui est très beau dans ce métier, c'est qu'en fait, on ne sait jamais vraiment de quoi on parle. Il y a toujours une nouveauté qui va se faire et il y a réellement un travail de remise à niveau de ces connaissances toujours. C'est-à-dire qu'il y a toujours des nouvelles publications sur notre sujet qui se fait vraiment tous les jours. Et même si ce n'est pas sur notre sujet, ça peut apporter une bribe de compréhension sur un mécanisme auquel on ne pensait pas forcément avant. Dire ah oui, c'est vrai, avec ça, peut-être que je peux expliquer ce que j'ai et on va aller un petit peu plus loin. Et c'est ça vraiment bien, c'est qu'on est capable, sans se concerter au final, de faire avancer chacun la science de notre côté pour aboutir vers un but commun, à savoir comprendre tel ou tel mécanisme de notre cerveau.
Si tu as un message à dire aux étudiants de toute la France, qu'est-ce que tu dirais?
Ouais, c'est beaucoup de responsabilité. Je dirais simplement qu'on n'a qu'une vie, on n'a qu'un cerveau et il faut en prendre soin. Au même titre que boire de l'eau d'une flaque parce qu'on trouve ça sale, je vois pas pourquoi on irait boire de l'alcool à outrance alors que ça a des répercussions extrêmement dangereuses sur notre cerveau. Donc c'est quelque chose qu'on a, voilà, on a qu'une vie, le cerveau c'est extrêmement important, la mémoire c'est très important et c'est pas une fois qu'on l'a abîmé qu'il faut pleurer parce que souvent les conséquences sont irrémédiables.
Merci à toi.
Bah, pas de soucis.
On finit cette émission avec le sourire. Benjamin, notre chroniqueur un peu foufou, nous donne sa vision des addictions.
Bonjour. 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 Bonjour, je l'ai déjà dit ça. Bonjour. 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 Merci, c'était tout pour moi. Chers auditeurs et chères auditrices, vous venez d'entendre la chronique du point de vue d'un drogué. Vous avez remarqué que ce n'était pas très plaisant, il a manqué quelques informations. Alors j'espère que vous nous écoutez attentivement, car aujourd'hui, maintenant, tout de suite, nous vous parlons de drogue et d'alcool. D'ailleurs, surtout d'alcool. Pourquoi ? Car c'est un sujet que je maîtrise et que j'apprécie tout particulièrement. Pour ceux qui n'auraient pas envie d'écouter ma chronique jusqu'au bout, sachez que je vous fournirai l'adresse d'un très bon dealer sur Amiens à la fin de celle-ci. Pour commencer, bonjour. Bonjour les auditeurs, bonjour Hugo et bonjour aux autres. L'alcool, le rhum, la vodka, le whisky, la bière, la tequila. Que de mots à connotation positive pour nous autres les jeunes. Nous aimons la fête, nous aimons boire. Pourquoi ? Car cela nous permet d'atteindre une perception du monde plus cool. Mais en même temps, ça nous fait crever. Voilà, j'ai assez bien résumé mon propos, je vais maintenant entrer dans le détail par une énumération de problèmes que peut entraîner la consommation d'alcool. Par exemple, vous allez être moins attentif. La perception du monde va être diminuée, vos sens vont moins bien fonctionner. Vous allez avoir des pertes de concentration, des pertes d'équilibre aussi. Vous allez aussi être moins critique envers vous-même et devenir ce mec bien lourd à qui personne n'a envie de parler en soirée. Et si vous buvez vraiment beaucoup, votre respiration va ralentir, votre pouls aussi. Vous risquez de perdre connaissance et de ce coup-là gâcher la fête de tout le monde. Bravo. En fait, vous supportez bien l'alcool ? Sachez que ceux qui tiennent bien l'alcool, comme on dit, sont généralement des gens dont l'organisme s'est habitué à intégrer cette substance. Cela peut révéler une consommation excessive. D'ailleurs, ça me rappelle un ami, il s'appelle Roger. Ouais, il n'a pas commencé sur de bonnes bases. On était en terminale ensemble. Et lors de notre année de terminale, on avait beaucoup de soirées, et en soirée, il buvait. Mais il buvait tellement de bière, il restait toujours lucide. Il buvait. Et nous, ça nous faisait marrer, car il avait un de ses bides, un bide à bière. Il était tout maigre, mais avec un bide à bière. On s'est tellement moqué de lui qu'il a tenté de faire de la chirurgie pour son bide. Oh, mais il buvait toujours autant. On s'est moqué comme ça pendant bien 5 mois pendant l'année. On aurait aimé plus, mais cet égoïste est mort. Cancer du pancréas. C'est vrai que dans un sens, c'est triste, car il nous aidait à faire nos maths. Mais bon, entre nous, il y aura toujours un autre guignol pour boire comme un trou lors d'une soirée. Faut juste faire attention que ce soit pas vous. D'ailleurs, la consommation d'alcool sur le long terme cause plein d'ennuis. Troubles de la mémoire, syndrome de Korsakoff, diminution des facultés intellectuelles. Tiens, je connais plein de gens qui boivent en fait. Comportement agressif et impulsif chronique. Mon père serait alcoolique. Cancer de la gorge et de la bouche, rhume fréquent, diminution de la résistance aux maladies, cancer du sein, atteinte hépatite, cirrhose du foie, tremblement des mains, douleurs nerveuses, risque de bébé avec syndrome alcoolique, troubles de la sexualité et impuissance, sensibilité réduite, risque de chute accrue, dommages musculaires, fourmillement, douleurs, inflammation des nerfs, céphalée, migraine, symptômes de sevrage, mélancolie, passivité, dépression, vieillissement de la peau, inflammation de l'œsophage, varices, gastrite, problèmes cardiaques, anémie, hypertension, carence en vitamines, malnutrition, surpoids, inflammation du pancréas, diabète, cancer de l'intestin, goutte, rhumatisme, inflation des articulations ou encore la mort au volant du buveur ou d'une famille innocente que vous venez de percuter. Ça en fait un paquet de raisons pour ne pas boire. Voudriez-vous, vous, voir vos amis, votre frère, votre sœur, vos parents être atteints de ces symptômes ? Les laisseriez-vous se détruire ? Moi personnellement oui, hein, car derrière ce micro je suis un individualiste égocentrique égoïste. Mais dans la vraie vie de tous les jours, non, je suis plutôt une bonne personne. Et moi, ma boisson préférée c'est de l'eau gazeuse. Parce que être bien dans sa tête et être bien dans son corps, c'est être bien dans sa vie. Et je finirai juste par vous demander de réfléchir à une chose. Pourquoi buvez-vous ? Sur ce, je vais maintenant vous donner l'adresse du dealer et c'est... Ah, je crois que Hugo me dit que mon temps de chronique est dépassé. Bon, bah peut-être une prochaine fois alors. Merci à tous.
Merci Benjamin, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Madalina, notre chroniqueuse. Vous pourrez vite retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Campus Amiens. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Campus Anatomie. En attendant, prenez soin de vous.